On pourrait lire dans Ésaïe 49. Ésaïe 49. Écoutez-moi, île, et soyez attentive, peuplade lointaine. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère. Il a fait mention de mon nom, et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë, et m'a caché sous l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « J'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par-devers l'Éternel et mon œuvre par-devers mon Dieu. » Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob. Quoiqu'Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, son Saint, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation abhorre, aux serviteurs de ceux qui dominent. Des rois verront et se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisira. Ainsi dit l'Éternel, en un temps agréé, je t'ai répondu et au jour du salut, je t'ai secouru et je te garderai et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour rétablir le pays, pour faire hériter les héritages dévastés, disant aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et sur toutes les hauteurs seront leurs pâturages. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes grandes routes seront élevées. Voici ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays de Sinim, exultez, cieux, et égaye-toi, terre, montagne, éclatez en chants de triomphe, car l'Éternel console mon peuple et fera miséricorde à ses affligés. Mais Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné, et le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là oublieront, mais moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Tes fils se hâteront, ceux qui te détruisaient et ceux qui te dévastaient sortiront d'avec toi. Lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras d'eux tous comme d'un ornement et que tu t'en ceindras comme une fiancée. Car dans tes lieux déserts et tes contrées désolées, et ton pays détruit, tu seras maintenant à l'étroit à cause des habitants, et ceux qui te dévoraient seront loin. Les fils que tu as eus quand tu étais privé d'enfants diront encore à tes oreilles, le lieu est trop étroit pour moi, fais-moi place afin que j'y habite, et tu diras en ton cœur, qui m'a enfanté ceci? Et moi j'étais privé d'enfants, abandonné, captif, chassé, et ceux-là, qui les a élevés? Voici, moi j'étais laissé seul, ceci, où était-il? On cite souvent, comme s'appliquant au Seigneur, le verset 4, « Et moi j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. » Mais il est toujours frappant et intéressant de lire exactement le contexte, comment Dieu prononce ces paroles. Alors, dans le verset que j'ai mentionné, c'est le verset 4, et le verset 3, nous indique celui qui parle, « Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. » Alors c'est d'ailleurs une des difficultés des chapitres 40 et suivants de Ésaïe, où il est à plusieurs reprises parlé du serviteur de l'Éternel, et certaines fois ça se rapporte à Israël comme peuple, et quelquefois ça se rapporte au Seigneur Jésus. C'est cette difficulté, cette confusion est d'ailleurs une source de mauvaise interprétation, notamment du chapitre 53, qui à l'évidence ne concerne que le Seigneur Jésus, mais comme le chapitre 52, verset 13, parle de mon serviteur qui agira sagement, certains en ont déduit à tort que ça se rapportait à Israël. Je dis ça aussi pour dire combien il faut faire attention à ce que dit l'Écriture et la lire de manière exacte. Et puis, il faut aussi, il y a des éclairages qui sont donnés, soit par le contexte, soit par d'autres parties de la parole, soit par le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, même cette expression, écoutez-moi, il est plusieurs fois parlé dans la parole, dans la prophétie des îles. Et en réalité, c'est les îles vues depuis Israël, et vues depuis Israël, il y a Chypre, il y a Crète, il y a toutes les îles de la Grèce. Et en fait, le mot « île » en fait se rapporte aux nations. On a ça notamment dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 21, il est dit « Les nations espéreront en ton nom ». Et c'est une citation de Ésaïe 42, et à la fin du verset 4 d'Ésaïe 42, il est dit « Les îles s'attendront à sa loi ». On s'aperçoit que des mots comme les îles, qui sont tout à fait géographiques, en fait, dans l'Écriture, très souvent, ils se rapportent aux nations, par contraste avec Israël. Alors, c'est effectivement, on a cet appel de ce chapitre 49, « Écoutez-moi, îles », qui s'adresse, et soyez attentifs, peuplade lointaine, donc qui s'adresse aux nations par contraste avec Israël. Alors l'Éternel m'a appelé dès le ventre. On voit, c'est une, au fond, c'est le conseil de Dieu qui pensait à l'œuvre de son Fils longtemps à l'avance, et qu'il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë. Il m'a caché sous l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie. Alors on voit là le Seigneur, serviteur de l'Éternel, qui a été utilisé pour toucher les cœurs par la parole. On voit c'est Hébreux 4 qui nous parle que la parole est plus pénétrante qu'une épée aiguë à deux tranchants. Mais alors le verset 3 nous parle du serviteur comme étant Israël. Et alors ce changement entre Israël et le Seigneur, c'est aussi quelque chose qui s'explique aussi par la parole de Dieu. On sait c'est dans 1 Corinthiens 15 où il est parlé. Il est parlé du second homme, du dernier Adam, une expression, je crois, typique de 1 Corinthiens 15, mais une expression qui signifie au fond qu'il y avait eu une première création, il y avait eu l'homme, et puis l'homme a entièrement failli, et alors il y a celui qui le remplace, qui est le second homme, non pas chronologiquement, mais dans les faits, celui qui est vraiment selon la pensée de Dieu. Adam était initialement selon la pensée de Dieu, mais sa chute a complètement l'a mis hors de question, et alors il est remplacé par le second homme, le Seigneur Jésus Christ, et qui est aussi appelé donc dernier Adam, parce qu'il y a premier Adam et dernier Adam. On trouve ça 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est la pensée qu'il y a Dieu remplace Adam par un nouvel homme qui est vraiment selon sa pensée et qu'il appelle Adam parce que ça correspond à son propos initial. Et alors, j'insiste sur ces choses-là pour bien montrer que ces expressions de versets qui tantôt ont l'air de concerner Israël, tantôt ont l'air de concerner le Seigneur, en fait, c'est pas des mauvaises expressions, c'est pas du langage confus, il y a une pensée profonde de Dieu qui substitue à son serviteur Israël défaillant et qui substitue un autre serviteur qui est le Seigneur lui-même. Et alors il y a, je souligne aussi dans Ésaïe 49 verset 4, c'est un des détails typographiques, et on voit le début du verset 4 qui commence par un tiret long. Alors les tirets longs ne font pas partie de la parole inspirée, il n'y avait pas de ponctuation dans l'original, mais la version Darby, comprenant le sens profond de l'écriture, a introduit des ponctuations, des séparations qui, pour distinguer, pour que le lecteur comprenne mieux, pour distinguer les sujets. Et alors effectivement, au verset 4, il commence à parler du Seigneur. Alors, cette expression est aussi remarquable, « J'ai consumé ma force pour le néant et en vain ». C'est là aussi certains commentateurs non spirituels ont tendance à penser à une défaillance, un découragement du Seigneur. Mais la parole nous souligne simplement l'aspect humain du Seigneur qui a travaillé, et travaillé avec force, avec énergie. Et effectivement, en apparence, eh bien, c'était pour le néant et en vain. Et c'est le résultat, c'est non seulement la croix, la croix qui est folie pour les hommes, tellement folie qu'il y a au fond un propos de Dieu d'envoyer son propre fils et qui se termine humainement par une croix. Et alors, toutefois mon jugement est part de vers l'Éternel, mon œuvre part de vers mon Dieu. C'est l'expression du Seigneur, mais du Seigneur comme homme, qui, ayant travaillé pour Dieu, n'ayant pas de succès en apparence, j'insiste bien sur en apparence, s'en remet complètement à Dieu. Et alors, en disant mon jugement, eh bien, il est part de vers l'Éternel, mon œuvre part de vers mon Dieu. Alors, si d'un côté il y a un aspect prophétique relatif au Seigneur, il y a un autre aspect de ces textes dont nous avons à retirer instruction pour nous. Dans la dernière réunion d'études sur 1 Corinthiens 15, nous avions évoqué ce dernier verset du chapitre 15 de 1 Corinthiens qui dit « Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur ». Mais c'était dit en rapport avec la résurrection qui va tout changer. Mais là, c'est dans Isaïe, c'est en rapport avec l'absence apparente de succès. Et alors, au fond, c'est aussi une pensée qui est importante pour nous, de voir le Seigneur qui, comme homme, j'insiste bien comme homme, il a travaillé. Et il a travaillé avec force. J'ai consumé ma force. Et puis, quand il est dit « j'ai consumé ma force », on voit que c'est pas simplement qu'il a agi avec force un coup, mais on voit que toute son énergie, il l'a consumée. Ça veut dire qu'il l'a usé jusqu'à toute extrémité pour donner toute l'application possible à cette force. Et alors, au fond, humainement, il n'y a pas de résultat. Et alors, au fond, on retrouve cette pensée de 1 Corinthiens 15, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, on retrouve cette pensée qui est un modèle pour nous. Pour le croyant, ceux qui ont la vie de Dieu, bien sûr, de travailler avec force et énergie, avec toute sa force et l'énergie, même s'il faut qu'elle soit consumée. Et puis, si on est tenté de dire ben, « ça ne sert à rien, parce que je ne vois pas de résultat », eh bien, il faut penser au Seigneur qui, lui, comme modèle, a dit « j'ai travaillé en vain et j'ai consumé ma force ». Et alors, la réponse qui lui est donnée dans les versets 5 et 6 est tout à fait remarquable. Parce que on a tendance à dire, bien, quand on est découragé, on a besoin d'être encouragé, on a besoin de bonnes paroles, de paroles qui nous font du bien, on dit ça souvent. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit ? Ce n'est pas simplement des paroles gentilles pour faire du bien. Il lui donne il lui indique ce que lui fait l'Éternel. Non seulement son propos, mais son action effective. « Maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé des... » C'est l'Éternel qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob. Alors déjà, quoi qu'Israël ne soit pas rassemblé. Alors on voit bien la raison pour laquelle le traducteur a mis le tiret au début du verset 4 pour distinguer ce qui s'adresse à Israël, ce qui s'adresse au Seigneur, parce que on voit bien que le serviteur, il avait pour fonction, selon le verset 5, de ramener Israël et de rassembler Israël. Donc ce n'est pas Israël, il y a bien deux serviteurs différents. Et puis l'Éternel donc dit, alors je serai glorifié, alors c'est le Seigneur qui parle selon ce que l'Éternel lui a révélé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel et mon Dieu sera ma force. Et il me dit, alors dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations. Alors en fait, on voit là, d'abord il y a un propos de Dieu qui, selon la fin du verset 5, est de rassembler. Rassembler, on trouve ça aussi à la fin du psaume 106, début du psaume 107, celui qui sauve et qui rassemble. La pensée de Dieu de rassembler. Et alors, si dans l'Ancien Testament il est question de rassembler un peuple, dans le Nouveau Testament, c'est pas rassembler un peuple, c'est réunir en un dans le Christ Jésus, c'est le propos de Dieu qu'on trouve dans Éphésiens 1. Et alors, on voit, et puis mon Dieu sera ma force, fin du verset 5. C'est assez frappant cette expression, parce que quand il dit « j'ai consumé ma force pour le néant », on a tendance à penser à la force humaine, à toute l'énergie qu'on a. Mais on voit là le serviteur qui déclare en conscience que c'est mon Dieu qui sera ma force. Et pourtant, c'est quand même dit « j'ai consumé ma force ». Alors, c'est aussi une instruction très frappante de voir que comme serviteur, nous avons à considérer que c'est Dieu qui est notre force, pas notre force humaine. C'est ma puissance s'accomplit dans l'infirmité, mais Dieu lui-même est sa force. Mais néanmoins, eh bien, il ne faut pas craindre de consumer sa force. Il ne faut pas le considérer comme contradictoire. Et puis alors, le verset 6 développe ce contraste entre disant « mais rétablir les tribus de Jacob, ramener les préservés d'Israël, c'est peu de choses, mais je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre ». Alors ces expressions sont très fortes et puis utiles à tous égards. D'abord, on voit que l'Ancien Testament s'achève avec le livre de Malachie, un livre assez triste où on voit l'indifférence du peuple à tout ce que Dieu fait, en quoi nous as-tu aimés. Et puis plus loin que Malachie, et bien il y a les évangiles où le Seigneur termine sur la croix. Et alors c'est bien, et pourtant c'est déjà la veille d'être crucifié que le Seigneur, en distribuant la scène, leur dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà que Dieu fait quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle alliance, et puis le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Alors c'est quelque chose de tout à fait remarquable de voir que quand l'homme a tout gâté, tout ruiné par son incurie, son inconséquence, voilà que Dieu n'est pas pris au dépourvu, mais il fait quelque chose de plus excellent, de meilleur. Et alors, au lieu qu'il s'agisse simplement de rassembler les tribus d'Israël, il veut introduire la bénédiction pour toutes les nations. Et c'est bien donc le c'est tout le propos du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, où l'Ancien a des objectifs terrestres, une loi terrestre, un peuple terrestre, une bénédiction terrestre. Et alors, quand l'homme a tout failli de ce côté-là, Dieu établit quelque chose de meilleur, quelque chose de céleste. C'est toute l'Épître aux Colossiens qui insiste sur notre espérance qui est dans les cieux. Alors, déjà, c'est cette première chose qu'il faut bien retenir de ces versets. Dieu qui opère, c'est lui qui est notre force. Et puis, quand l'homme défaille, il ne restaure pas, c'est-à-dire que, mais il établit quelque chose de meilleur, de plus excellent, de différent. Et ça, c'est, du point de vue de l'homme, c'est soit incompréhensible, soit c'est une folie. C'est les versets qu'on a lus ce matin sur la folie, la croix qui est folie pour le monde. Soit c'est l'incrédule ne veut pas croire des choses pareilles. C'est des choses qui dépassent. Comment est-ce que la croix peut être quelque chose de glorieux? Et alors, au fond, il y a cette pensée que Dieu établit quelque chose de meilleur. Ça ne veut pas pousser à abuser de la grâce et à dire, faisons n'importe quoi, parce que de toute façon, Dieu établira quelque chose de meilleur. Il établit quelque chose de meilleur, mais il établit quelque chose de meilleur autrement, par d'autres personnes, et au déshonneur de ceux qui ont failli. Ça, alors, après la croix, le livre des Actes nous montre bien les fruits excellents et nombreux qui ont été produits, mais c'est quand même au déshonneur de tous ceux comme les scribes, les pharisiens et tous les hommes religieux qui se sont dressés contre les seigneurs, qui n'ont rien compris et qui se sont bornés à persécuter les croyants. Alors, donc, on a cette pensée de Dieu qui établit quelque chose de meilleur. Et puis, il établit quelque chose qui dépasse tout le pays d'Israël, ces petits pays, finalement. Quelle pensée que Dieu, maintenant, fait une lumière pour toutes les nations, jusqu'au bout de la terre. Et alors on voit Dieu qui en fait prend à cœur tous les hommes partout. Et il a un propos, et un propos qui est donc bien plus excellent. Alors on voit le contraste par rapport à « j'ai travaillé en vain et j'ai consumé ma force pour le néant et en vain », est d'autant plus frappant que, au fond, en apparence, il y avait la croix, qui le travail du Seigneur a été pour le néant et en vain, c'est les apparences humaines, et voilà que Dieu fait quelque chose d'autre. Et c'est là où je disais que c'est pas seulement que Dieu essaye de consoler en lui disant « mais quand même, c'était pas trop mal ce que tu as fait », c'est pas la manière de faire de Dieu d'agir. Il fait, on le voit, que même à la suite ou après des circonstances douloureuses, la force consumée en vain, Dieu établit quelque chose de plus excellent, de plus admirable. Et parce qu'il a un propos que nous ne voyons pas, que nous ne rendons pas compte de ce qu'il fait, mais lui, il fait. Et c'est « je te donnerai pour être une lumière des nations », c'est Dieu lui-même qui opère. Alors cette pensée qui est « Dieu opère », on la trouve à bien des endroits, hein, Corinthiens 12 et d'autres. Mais combien C'est une pensée qui est importante et forte, parce que nous avons ce risque de tomber quelquefois dans le désespoir quand nous voyons la ruine de tout ce que fait l'homme, même, osons le dire, ruine du témoignage à bien des égards. Et alors, on risque d'être aussi d'autant plus désespéré que l'Écriture, que ce soit l'apôtre Paul ou que ce soit Jude ou Pierre, tous concordent pour nous, et Jean aussi, tous concordent pour nous dire, mais les derniers temps, ça va être pire que tout. C'est encore bien plus fâcheux. Alors nous, quand nous voyons, regardons le monde, il y a le côté de ce que nous pouvons voir dans l'état du témoignage est une chose, ce que nous pouvons voir dans le monde est une autre chose. Elle a ceci de particulier concernant le monde, c'est que le mal prend non seulement des proportions, mais surtout des profondeurs qui dépassent toute mesure. Toute mesure et qu'on n'aurait jamais pensé. Mais au fond, on a toujours la tendance à être à ce que la peur l'emporte, à dire mais le mal l'emporte et Dieu ne retient pas. Mais oui, il retient pas. C'est dit expressément dans 2 Thessaloniciens 2, quand il est dit le mystère d'iniquité opère déjà, seulement vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Le mystère d'iniquité opère déjà, seulement il opérera juste. Je lis les versets exacts. 2 Thessaloniciens 2, verset 6. Maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Donc, quand il y a un mystère d'iniquité qui opère, on a quelqu'un qui retient, Saint-Esprit, et puis il le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. C'est-à-dire, il retient, mais il y a un moment où il ne retiendra plus. Alors on n'est pas étonné que le mal ou l'ennemi tire jusqu'au bout. Et quand il est dit jusqu'à ce qu'il soit loin, on dira, bon, ben alors après, ça va être... Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, il nous est dit qu'après, c'est la révélation de l'inique, c'est-à-dire de l'antichrist. Quand on lit Apocalypse 6, les différents sceaux, on s'aperçoit que l'une des premières choses après le retour du Seigneur, c'est une guerre civile généralisée avec des meurtres à tout va. Alors, ce sont toutes des choses qui nous aurions... Du point de vue humain, mais nous risquons nous-mêmes d'être entraînés dans cet état d'esprit, il y a de quoi mener au désespoir, en disant, mais à quoi bon tenir, à quoi bon résister, à quoi bon... puisque de toute façon, tout tourne mal et la parole de Dieu nous annonce encore le pire. Et alors, on voit là cet exemple du Seigneur qui est particulièrement remarquable en ce sens quoi qu'il en soit, et lui savait quelle serait la fin, il a travaillé à fond jusqu'à consumer sa force, et non pas avec une maigre consolation que Dieu pensera à lui, le consolera dans sa peine, non, avec une consolation forte, que Dieu fait son œuvre et qu'il fait quelque chose de plus excellent. Alors ça peut être ailleurs, ça peut être dans les îles, les nations, ça peut être par d'autres personnes, mais on ne peut pas dire comment ça sera, parce que Dieu fait toujours des choses inattendues. Mais pourquoi elles sont inattendues ? Mais c'est parce que c'est un propos de Dieu, mais on trouve ça dans l'un des prophètes, mais je crois que c'est Ésaïe 55, sauf erreur, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, les pensées de Dieu vont bien au-delà des nôtres. » Mais on n'a pas besoin de connaître le détail de ce que Dieu fait. On n'a pas besoin de connaître exactement comment il arrivera à ses fins. Mais au fond, on a cette certitude de Dieu qui veut donner une lumière des nations et un salut jusqu'au bout de la terre. Et alors, au fond, c'est Satan qui toujours cherche à pousser au désespoir. Il a poussé Cain au désespoir, il a poussé Judas au désespoir, et il pousse toujours au désespoir. Mais nous avons à nous appuyer et sur la parole et sur cette pensée que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il opère. Et alors il continue là, au verset 7. « Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël. » Rédempteur, c'est celui qui rachète. Hein, c'est le mot, l'étymologie du mot, c'est celui qui rachète. « Le Rédempteur d'Israël, son Saint, à celui que l'homme méprise. » Alors c'est le serviteur, là, c'est Christ. Mais quelle pensée de Dieu qui voit très bien que son serviteur est méprisé. Il voit très bien même que c'est plus qu'un mépris, puisqu'il est dit à celui que la nation abhorre, ça veut dire que l'environnement est hostile aux serviteurs de ceux qui dominent. Des rois verront, se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle. Et alors on voit la fidélité de l'Éternel qui est affirmée de façon forte. Et puis, alors, cette fidélité, elle est affirmée dans ce, disons, quand il est dit des rois verront, se lèveront, des princes, ils se prosterneront, c'est évidemment dans le règne futur, c'est des choses qui concernent la terre, elles ne sont pas, c'est des promesses de Dieu, elles ne sont pas arrivées, elles sont pour le règne après l'enlèvement de l'Église. Alors on dira, si c'est après l'enlèvement de l'Église, ça ne nous concerne pas. Mais comment ça ne nous concerne pas? Si c'est la gloire du Seigneur qui est glorifiée là où il a été déshonoré. Et au fond, c'est quelque chose qu'on a à bien être imprégné de cela aussi. Dieu qui se plaît à honorer ceux qui ont été déshonorés. Il l'a fait par excellence dans la personne du Seigneur, mais il le fait aussi pour les siens. Et puis, il est dit aussi, alors verset 8, « Ainsi dit l'Éternel, en un temps agréé, je t'ai répondu, et au jour de salut, je t'ai secouru. Je te garderai pour être une alliance du peuple, pour rétablir le pays. » Alors, ce verset est assez curieux pour plusieurs raisons. Alors, le sens premier direct qu'on a là, c'est la promesse de Dieu de rétablir le pays, d'être une alliance du peuple, et alors on dit c'est le règne futur, c'est la terre, c'est quelque chose que nous verrons pas parce que nous on sera au ciel. Mais voilà que ce verset-là, il est en fait cité dans 2 Corinthiens 6. Il est cité, alors on aurait tendance à dire qu'il est cité hors du contexte. En fait, pas du tout. Le contexte de 2 Corinthiens 6, alors la fin de 2 Corinthiens 5, c'est l'exhortation à être ambassadeur de Christ et à supplier pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, c'est 2 Corinthiens 5, verset 20, et en disant que le Seigneur, c'est celui qui n'a pas connu le péché qui a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu. C'est pour ça que c'est un encouragement à prêcher la réconciliation. Alors, chapitre 6, qui fait la suite directe, « Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi nous exhortons à ce que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain. » Alors, c'est toujours cette pensée que l'homme, par nature, nous avons tendance à dire, « Bon, ben, de toute façon, ce qu'on fait, ça ne sert à rien, on travaille en vain. » Et là, l'apôtre Paul vient dire, « Mais non, mais ça vaut la peine d'être ambassadeur de Christ, parce que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu en vain. » Et alors, il justifie ce qu'il dit par « Autant agréé, je t'ai exaucé, en un jour de salut, je t'ai secouru. » Mais c'est justement la citation d'Ésaïe 49, verset 8. « Car maintenant, c'est le temps agréable, voici, c'est maintenant le jour du salut. » Alors, on le voit, l'apôtre Paul utilise cette expression à la fois pour justifier que ça vaut la peine d'être ambassadeur pour Christ, et à la fois pour dire, mais Dieu, il répond et il donne le salut tout de suite. Alors, on voit, c'est tout à fait frappant de voir que si on l'interprète très littéralement dans Ésaïe 49, on voit que ça concerne le règne futur, et c'est juste, mais l'apôtre Paul, il en fait une application immédiate, maintenant, et le jour du salut, au lieu que ce soit un salut pour la terre, vague, générale dans le règne futur, c'est le salut qu'il est en train de prêcher, c'est l'évangile, et l'apôtre Paul l'applique à l'évangile. Et alors on voit que cette pensée de Dieu, qui a des propos de Dieu, des propos pour le futur de restauration complète, enfin, en fait, Dieu l'applique directement maintenant, d'une manière différente, spirituelle, dans l'évangile, mais il prêche la même chose, un salut présent. Je t'ai répondu et au jour du salut, je t'ai secouru. Alors, on voit là combien c'est important d'entrer dans les pensées de Dieu, où à la fois on voit des prophéties pour le futur, et à la fois on voit des encouragements. Mais c'est plus que des encouragements, c'est des promesses pour le présent. Dieu agit. C'est pas simplement « je vous consolerai, vous soyez tranquille, il ne faut pas avoir de la peine ». C'est « il secourt maintenant, directement, dans le temps présent ». « Autant agréé, je t'ai exaucé, en un jour de salut, je t'ai secouru. » Alors, ce sont toutes des choses qui méritent d'être méditées, parce qu'elles sont toutes à l'encontre du désespoir. Et on voit là la manière de Dieu de penser et d'agir. Alors, dans les suites de Ésaïe 49, il dit, tu seras, fin du verset 8, sera une alliance du peuple pour établir, pour faire hériter les héritages dévastés. Verset 9, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Alors on dit sortez, c'est la libération. On voit bien le règne futur avec les la cessation de l'oppression par les ennemis, mais au fond, Dieu opère déjà maintenant une délivrance de l'esclavage du péché, immédiate, maintenant, aujourd'hui et directement. Et quelle pensée qui doit... nous avons affaire à un Dieu qui délivre de l'esclavage. Et si certains parmi nous sont adonnés à des addictions, comme on dit aujourd'hui, eh bien des addictions qui sont un esclavage de toutes sortes de choses, il n'y a pas besoin de détailler de quoi, mais les addictions sont des esclavages. Et alors voilà que Dieu qui se présente comme un Dieu libérateur, un Christ libérateur, sortez. Et il dit à ceux qui sont aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ténèbres, on est même devant l'écran, il a beau être lumineux, on peut être complètement dans les ténèbres en observant complètement ceux qui sortent des écrans. Et ils paraîtront, et alors on voit, ils n'auront pas, verset 10, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, la chaleur et le soleil ne les frapperont pas, et celui qui a compassion d'eux les conduira, les mènera à des sources d'eau. On voit les rafraîchissements et la paix à laquelle Dieu peut mener. Comment se livrer au désespoir quand on a de telles promesses? Mais alors on dira, oui, mais la ruine, elle est là. Et le monde, alors la ruine du monde, n'en parlons pas. Dieu, il va au-devant du jugement. Ruine du témoignage, oui, mais ce n'est pas de ça que Dieu nous occupe. Il nous occupe de ses promesses, de ce qu'il va faire, de lui qui opère, et de sa force qu'il ne faut pas craindre de consumer. Et alors, qu'il nous soit ainsi donné de nous affermir. Et alors, ce n'est pas seulement nous affermir, mais verset 13, « Exultez, cieux, égaye-toi, terre. » Alors, on pense à Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Encore une fois, je vous le dirai, « Réjouissez-vous. » On dira, oui, mais il y a la ruine, il y a de quoi désespérer. Sauf que, exultez cieux, égaye-toi terre, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et alors, la conclusion, c'est l'Éternel console son peuple, il fera miséricorde. Mais il ne console pas comme nous, on console. Il console en donnant des certitudes et en donnant des promesses. Alors on dira, mais... comme le verset 4, on a tendance à dire « Mais l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, il ne fait rien du tout pour moi et je ne vois rien du tout. » Et la réponse dit « Mais une femme oubliera-t-elle son nourrisson ?» Alors malheureusement, on en voit aujourd'hui des femmes qui oublient leur ce qu'elles ont conçu. Mais lui, il n'oublie pas. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Quelle pensée encourageante de voir Dieu qui nous a gravé sur les paumes de ses mains. Le Seigneur, c'est les mains avec la marque des clous.